on va parler dans un instant de ce qu'on a là en face de nous, encore une fois sur des images. La flèche de Notre-Dame est en feu. Ouais. Je ne sais même pas si elle est encore debout au moment où on se parle. On va vous donner des informations. La flèche est tombée.
Elle
on nous dit
tombée,
à l'instant que la flèche
de
Notre-Dame vient de tomber. Imaginez ce qui est en train de se passer à Notre-Dame, le bâtiment le plus visité d'Europe, probablement. Des siècles, évidemment, des siècles d'histoire qui sont là en train de tomber. Alors, on l'avait dit tout à l'heure que c'était un incendie qui était un incendie apparemment accidentel. Hein. Il y a eu des travaux autour de la flèche, vraisemblablement. On ne sait pas encore comment cet incendie a pu se déclarer, mais il a pris extrêmement vite. Tout le monde, tous les gens autour que certains de nos reporters ont pu avoir nous ont raconté combien les images, combien les flammes étaient subitement impressionnantes, combien la fumée était impressionnante, comment on pouvait la voir de partout. Eh bien, cet incendie a pris extrêmement vite. Alors, apparemment, tout le monde a pu partir sur le parvis de la Défense. Tout le monde a pu apparemment donc se mettre à l'abri. Je ne veux pas parler trop vite, mais je pense que de ce point de vue-là, les choses vont bien. En revanche, le toit de l'arrière de la cathédrale s'est effondré. On a comme une espèce de terrasse en haut de Notre-Dame maintenant. C'est tout plat. Le toit s'est totalement effondré. C'est ce que disent les témoins qui sont cités en ce moment par l'AFP. Et c'est extrêmement impressionnant, effectivement, de voir ces images avec donc des flammes qui sont extrêmement hautes. Et cette flèche, donc, qui désormais est tombée, la flèche de Notre-Dame, je ne sais pas si on arrive à réaliser jusqu'à quel point c'est un incendie extrêmement grave. Ce que j'ignore et ce que je ne peux pas vous dire pour l'instant, j'espère qu'on aura ces informations dans peu de temps, c'est jusqu'à quel point le reste de la cathédrale a été touché. Est-ce que les pompiers arrivent à travailler? Dans quelles conditions on arrive à travailler dans un monument de cette ampleur-là, dans un monument aussi important avec des flammes, encore une fois, qui sont extrêmement impressionnantes? Rémi Brancato qui vient de s'asseoir auprès de nous. Rémi, dites-nous donc, la flèche s'est effondrée, où on en est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à maîtriser cet incendie incroyablement spectaculaire à Notre-Dame?
Alors pour l'instant, c'est compliqué d'avoir des informations précises sur ce qui se passe à l'intérieur de la cathédrale, puisque les pompiers sont en cours d'intervenir. Vous le disiez, la flèche de Notre-Dame de Paris s'est effondrée en raison de cet incendie qui se serait donc déclenché sur ce chantier de rénovation de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un chantier dont on vous avait parlé la semaine dernière sur France Inter, un chantier qui consistait donc à rénover cette flèche qui a été bâtie, installée au 19e siècle et qui notamment avait consisté à retirer les statues de cette cathédrale qu'on avait vu justement voler au-dessus de Notre-Dame. Ce chantier, j'ai pu joindre quelques personnes qui travaillent sur ce chantier il y a quelques instants, qui ne savent strictement rien de ce qui se passe pour l'instant à l'intérieur de la cathédrale, qui se sont rendus aux abords de la cathédrale et qui assistent, me disent-elles, médusées, désespérées à cet incendie, sans pouvoir m'en dire plus pour l'instant.
Ce que vous racontiez tout à l'heure, Rémi, lorsque nous étions dans le journal de 19h, c'est qu'a priori, en tout cas, tout le monde a pu sortir de la cathédrale et regarde, comme vous le disiez, mais disait effectivement sur le parvis. Absolument. Mais tout le monde a pu sortir de cette cathédrale.
Alors, en tout cas, l'ordre a été donné d'évacuer la cathédrale aux alentours de 18h30. C'est l'information que nous donnait tout à l'heure le responsable de la communication de la cathédrale Notre-Dame de Paris, puisqu'un office avait lieu. Vous savez qu'il y a un office tous les soirs à la cathédrale Notre-Dame de Paris à 18h15. L'office était en cours. Il était 18h30, m'a-t-on raconté tout à l'heure, quand une alarme s'est déclenchée dans la cathédrale Notre-Dame et que l'ordre d'évacuer a été donné. Alors, est-ce que tout le monde a pu quitter la cathédrale à temps? On le souhaite, évidemment. Impossible de le dire pour l'instant, puisque l'incendie se poursuit.
Vous restez avec nous, Rémi. Ce que dit le porte-parole de la cathédrale, là, en ce moment, cité par l'agence France Presse, c'est « Tout est en train de brûler, la charpente qui date du 19e siècle d'un côté et du 13e siècle de l'autre. Il n'en restera plus rien. » Il s'appelle André Finot. Il faut voir si la voûte qui protège la cathédrale, va être touchée ou pas. Le feu, dont la gravité, dit-il encore, restait encore à déterminer, a pris aux alentours de 7h10, c'est ce que vous nous racontiez, Rémi, dans les combles de la cathédrale, donc monument évidemment historique le plus visité d'Europe. Mathilde Dehémy, vous êtes sur le parvis de Notre-Dame, vous voyez ces images extrêmement impressionnantes. Dites-nous ce que vous voyez, dites-nous où sont les gens et surtout comment les pompiers arrivent à travailler dans un incendie de cette ampleur.
Ouais, je suis pas sur parvis parce que toute l'île de la Cité est
bloquée,
accessible, y compris à pied. On est plutôt en train d'évacuer les gens qui se trouvaient sur cette île de la Cité, notamment les touristes. Nous sommes au pont Saint-Louis sur l'arrière de Notre-Dame de Paris, là où le feu a pris. Et il y a quelques minutes, une clameur autour de nous qui a serré le cœur de beaucoup de Parisiens et de touristes. Cette clameur, c'est au moment où la flèche de la Notre-Dame de Paris s'est effondrée. Toujours beaucoup de fumée. On voit même quelqu'un à l'instant sur un toit. Sur l'île de la Cité. Pour l'instant, nous ne voyons que de la fumée, les toitures en flammes, et les gens autour, marqués, tristes, des gens qui tremblaient, qui se sont pris dans les bras, qui se sont serrés dans les bras, tellement l'image est forte de voir à une semaine de Pâques cette Notre-Dame de Paris dans les feux.
Mathilde, on comprend l'émotion des gens qui sont autour de vous. Vous nous parliez de la flèche qui s'effondre. Pardon de vous le demander comme ça, est-ce que ça s'entend? Est-ce qu'on a entendu le craquement? Est-ce qu'on a entendu la flèche tomber et que disent les gens autour de vous? On a l'impression en vous écoutant que le moment d'émotion est là et qu'on regarde même sans rien dire au fond.
Oui, et d'ailleurs, si je reviens un tout petit peu en arrière sur le trajet que nous avons fait en moto avec Raymond Albouis depuis la maison de la radio, à chaque pont, le long du quai, partout, des centaines et des centaines et des centaines de personnes se sont arrêtées dans leur vie quotidienne pour regarder ce qui se passait. Et autour de nous, les gens sont là, agglutinés partout, des gens qui tremblent véritablement. On était surpris, j'ai demandé d'ailleurs si les gens à qui j'ai parlé tout à l'heure étaient contents en pensant que ça pouvait avoir une résonance particulièrement forte pour eux, mais ce n'était pas le cas. Donc ils m'ont parlé du symbole que représente Notre-Dame de Paris pour la ville de Paris, qui m'ont parlé de Notre-Dame de Paris, du symbole de Victor Hugo, ce genre de choses. Et pour répondre aussi à la question sur le bruit, non, il n'y a pas eu de bruit. Et c'est peut-être ça qui faisait le plus mal, c'est tout d'un coup on a vu vraiment la forme de la flèche, mais dessinée par les flammes, s'effondrer derrière les immeubles de l'île de la Cité, sans un bruit, mais dans une énorme épaisseur de fumée blanche qui continue là, juste sous nos yeux.
Mathilde, vous disiez que vous étiez effectivement un peu loin. C'est compliqué, évidemment, d'accéder près du parvis. Oui. On comprend pourquoi. Est-ce que vous voyez quand même le balai des voitures de pompiers? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre, de l'importance des pompiers qui sont là autour pour essayer de venir à bout de cet incendie?
Non, très sincèrement, on a dû se pousser avec la moto il y a quelques minutes. Pour laisser passer des CRS qui donc vont être chargés de sécuriser la zone et qui n'étaient pas là quand nous sommes arrivés. On voit au loin des camions de pompiers et des pompiers, les camions notamment avec les échelles, mais très sincèrement, impossible de vous dire combien ils sont. Ce qui est sûr, c'est que les forces vont être mobilisées, toutes les casernes de l'intérieur de Paris vont être mobilisées. Parce que ce qui est sûr, c'est que le traitement de cet incendie, une fois qu'il sera éteint, sera long. C'est qu'il n'y aura pas de départ de nouveau de feu.
Ah bah oui, ça, j'imagine que le traitement sera extrêmement long avec un dispositif exceptionnel, Mathilde. On comprend que vous ne puissiez pas le voir de là où vous êtes, mais c'est le ministre de l'Intérieur qui vient de tweeter et parle d'un dispositif exceptionnel qui a été déployé par la préfecture de police de Paris pour neutraliser ce violent incendie. Il dit, Christophe Castaner, je partage l'immense émotion des Français. Et puis on apprend aussi au même moment que Emmanuel Macron se rendra à Notre-Dame de Paris probablement incessamment sous peu, et on comprend bien évidemment pourquoi l'allocation qui devait être la sienne à cette heure-ci ne pourra pas avoir lieu. Je vous rappelle que Notre-Dame de Paris est littéralement dévorée par les flammes, la flèche de Notre-Dame s'est effondrée, le parvis a été, la cathédrale a été évidemment évacuée, le parvis également. Vous entendiez Mathilde Delémy à l'instant qui nous expliquait qu'il fallait rester très loin pendant que les pompiers en dispositif exceptionnel essaient de travailler. Rémi Brancato, vous nous le rappeliez tout à l'heure, ça commence, j'allais presque dire tout simplement, c'est terrible à dire comme ça, par des travaux dans la flèche, oui. C'est là qu'apparemment les choses ont commencé.
Oui, c'est ces travaux qui ont débuté il y a quelques semaines dans la flèche de Notre-Dame de Paris en cours de restauration. C'est à l'endroit de ces travaux que l'incendie aurait débuté. C'est en tout cas ce qu'indiquait tout à l'heure la préfecture de police de Paris. Peu après 18h30, vers 18h50, en tout cas, le responsable de la communication de la cathédrale Notre-Dame de Paris nous indiquait que l'office était en cours, l'office de 18h15, et qu'une alarme s'est déclenchée dans la cathédrale. cathédrale. Toutes les personnes à l'intérieur ont évidemment évacué. En tout cas, l'ordre a été donné d'évacuer et on entendait Mathilde Dohimy tout à l'heure qui se trouve sur place nous indiquer que désormais le périmètre de sécurité s'étend à toute l'île de la cité étant donné l'ampleur de cet incendie dont on voit les images. Ces flammes qui ravagent la cathédrale et les pompiers qui sont en train d'intervenir. Rappelons-le.
Qui essaie d'intervenir, on ne sait pas très bien dans quelles conditions pour l'instant.
On ne sait
en
pas dans quelles conditions évidemment. Et rappelons-le, la flèche qui était donc en cours de restauration, cette flèche de la cathédrale Notre-Dame s'est effondrée il y a quelques minutes, dévorée par les flammes de cet incendie.
Vous restez avec nous, évidemment, Rémi Brancato. Bonsoir, Odon Vallet.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur France Inter. Vous êtes historien des religions. Moi, j'aimerais savoir quel est votre sentiment quand vous voyez ces images, quand vous savez que la flèche de Notre-Dame de Paris est tombée. Quel sentiment ça vous laisse? Vous êtes dans quel état, là, Odon Vallet?
Écoutez, c'est vraiment très, très, très surprenant. Cet édifice a été construit à partir de 1160. Elle n'avait jamais subi de dégradation et de destruction à ce point. Pour trouver des destructions de cathédrales, il faut revenir à des faits de guerre. Je pense à la cathédrale de Reims entre 1914 et 1918. Je pense aussi à l'église Saint-Gervais qui est à côté de Notre-Dame avec les obus de la Grosse Bertha le Vendredi Saint 1918. Pour le reste, on n'a pas vraiment de souvenirs de ce type en France, sauf peut-être la destruction, l'effondrement de la cathédrale de Beauvais parce qu'elle était mal construite. Bon, mais ça n'avait rien à voir avec un incendie. Notre-Dame est encore une fois le monument le plus visité au monde, avec des pèlerins, des visiteurs entre 12 et 14 millions par an, le deuxième monument au monde étant le Sacré-Cœur entre 10 et 12 millions. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La cathédrale va évidemment être fermée pendant longtemps. Or, c'est une cathédrale essentielle pour Paris. Pensez que l'ordination des prêtres doit avoir lieu ou devait avoir lieu le dernier samedi du mois de juin. Ça aura probablement lieu à Saint-Sulpice. Mais il y a beaucoup de manifestations religieuses importantes à Notre-Dame. Il y a aussi d'autres trésors. Il y a le trésor de la cathédrale, qui est composé d'objets d'une très très grande valeur. Et il y a surtout les fameuses orgues Cavaillé-Coll de Notre-Dame, qui sont parmi les plus grandes et les plus belles du monde. Est-ce qu'elles auront souffert ou pas? Notre-Dame a une vie liturgique, mais aussi une vie musicale. Il y a du cultuel et du culturel très important, avec plusieurs chœurs, beaucoup de concerts, des conférences. Les fameuses conférences de carême de Notre-Dame, où il y a de grands théologiens qui viennent parler le dimanche, eh ben, ça n'aura pas lieu maintenant.
Alors, Odon Vallet, moi j'aimerais, vous parliez des orgues, effectivement, à l'instant. Qu'est-ce qu'il y a d'incroyablement précieux à l'intérieur même de cette cathédrale qu'il faudrait, là, pouvoir sauver in extremis avant qu'il ne soit mangé par les flammes?
Si vous voulez, c'est trop tard. Hein.
Ouais.
Vous avez les vitraux extraordinaires, la rosace, qui est considérée comme l'une des plus belles du monde, hein. En n'oubliant pas que beaucoup de ces trésors ont été restaurés récemment. La cathédrale avait fait l'objet d'une véritable réhabilitation, mais un peu discutable parfois sur le plan du goût. Au XIXe siècle, Second Empire, vers 1860, c'était les restaurations de Viollet-le-Duc. Mais là, on peut dire que la cathédrale est constamment en travaux. Hein. Il faut dire qu'il y a eu des spectacles extraordinaires. Il y a eu des sons et lumières avec les plus grands artistes, avec Pierre Fresnay, avec Madeleine Renaud qui récitait le célèbre poème de Marie-Noël, « Mon petit, c'est moi qui te l'ai donné », etc. Enfin, il y a une histoire, il y a Victor Hugo, bien entendu, une histoire littéraire et artistique extraordinaire à Notre-Dame.
Vous disiez qu'il y avait, vous disiez Notre-Dame est en travaux constants. Est-ce que c'est ça, selon vous, alors je ne vais pas vous transformer au Don Valé en expert incendie, mais est-ce que, selon vous, c'est ça peut-être qui fragilise, qui fragilisait Notre-Dame?
Alors, d'après ce que l'on dit, ce serait cela. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il puisse y avoir de tels dégâts pour une histoire de travaux, peut-être, je ne sais pas moi, qui aurait, il y a peut-être une erreur, peut-être une flamme qui serait partie quelque part, un chalumeau, je ne sais pas, que ça ait de telles conséquences, c'est quand même très très surprenant. Alors certains vont interpréter ça, certains vont dire c'est le jour de l'intervention de Macron, le chef de l'État n'intervient pas, c'est maudit, il est maudit, etc. Soyons très raisonnables. Vous savez, c'est un peu comme les, dans un ordre tout différent, comme les tours du 9-11, du 11 septembre, qui aurait pu prévoir ça? Là, heureusement, ça n'est apparemment pas un attentat. Bon, on nous le confirmera, je pense.
Mais pour l'instant, oui, tout ce qu'on dit, c'est, on ne parle que d'incendies et de travaux qui ont dégénéré dans Valais. On ne parle pas d'autre chose.
D'accidentel. Voilà. Mais c'est incroyable d'avoir ça. Là encore, toutes les grandes destructions de cathédrales, c'est des faits de guerre. Hein. Mm-hmm. Je pense à la cathédrale de Coventry en Angleterre, hein, à tel point qu'il y avait une expression en anglais « Coventrated », ça veut dire entièrement rasé. La cathédrale de Berlin, des choses comme ça, mais ce sont les guerres. Et là, c'est une destruction comme s'il y avait eu des bombes incendiaires déversées sur l'église. C'est incroyable.
Et c'est vrai que c'est très impressionnant parce que nous, sur les télévisions que nous avons là dans le studio de France Inter, on voit évidemment des images qui viennent de plus loin, des images du quartier et aussi des images aériennes. Et ce qu'on voit, c'est que cet incendie est toujours extrêmement vif. Il y a des flammes, ce n'est pas seulement de la fumée, c'est vraiment des flammes. Et on voit les images de qu'on vous décrivait tout à l'heure, de la flèche qui tombe. Donc il y a vraiment des flammes, il y a une fumée extrêmement épaisse qui se voit d'extrêmement loin et qui est particulièrement impressionnante. Et on peut imaginer, on comprend ce que nous décrivait Mathilde Dehémy tout à l'heure en parlant de l'émotion des gens qui étaient autour et qui voyaient impuissants se dérouler cette catastrophe totale ici à Notre-Dame. Rémi Brancato, ce qui est extrêmement difficile au moment où on se parle et probablement que les responsables de Notre-Dame sont incapables de nous le dire pour l'instant, c'est jusqu'à quel point cette cathédrale peut brûler sans que les pompiers puissent enfin commencer à maîtriser. La grosse frayeur de tout le monde, j'imagine, c'est de se retrouver avec une cathédrale à terre.
Oui, pour l'instant, on a très peu d'informations sur la façon dont les pompiers travaillent actuellement aux abords ou à l'intérieur de la cathédrale. Impossible de le dire, étant donné que le périmètre de sécurité est très large autour de ce monument historique. Un périmètre de sécurité qui s'élargit à l'ensemble de l'île de la Cité, où se trouve la cathédrale Notre-Dame de Paris. Effectivement, vous le disiez, Fabienne, les responsables de la cathédrale Notre-Dame, le responsable de la communication, notamment de la cathédrale, nous expliquait tout à l'heure qu'il était sur place, mais qu'il avait très peu d'informations. Qu'il était perdu, que la cathédrale a été évacuée très rapidement. L'alarme s'est déclenchée durant l'office qui avait débuté à 18h15 tout à l'heure. Et donc tout le monde a dû quitter le monument très rapidement et s'est retrouvé à l'extérieur. Il me disait ne pas savoir où se trouvaient ses collègues à ce moment-là. J'ai également pu joindre quelques responsables de ce chantier de restauration de la flèche de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qu'on a vu s'effondrer tout à l'heure durant cet incendie.
Les travaux avaient commencé à quel moment, vous le savez ?
Les travaux d'élaboration de l'échafaudage autour de la flèche avaient débuté il y a quelques mois. Les travaux allaient débuter puisqu'on avait retiré il y a quelques jours seulement, jeudi, ces statues qui se trouvaient sur la flèche de Notre-Dame de Paris. Ces 16 statues, les 12 apôtres et les 4 évangélistes qui avaient été retirés jeudi par cette grue. C'était effectivement un spectacle assez impressionnant de ces statues qui volent au-dessus de la cathédrale jeudi dernier. Les travaux de restauration allait débuter et cet incendie survient aujourd'hui, incendie très violent qui est toujours en cours et on nous indique à l'instant, un journaliste de l'agence Reuters indique à l'instant que la toiture de Notre-Dame de Paris se serait totalement effondrée. L'incendie en tout cas se poursuit et les flammes sont extrêmement violentes actuellement à Notre-Dame.
Merci Rémi, vous restez évidemment avec nous. Bonsoir Monseigneur Rivado Dumas.
Bonsoir.
Vous
madame.
Êtes le porte-parole de la Conférence des évêques de France. J'aimerais d'abord que vous nous donniez votre sentiment sur ce que vous ressentez là quand vous voyez que Notre-Dame, pardon de le dire comme ça, Notre-Dame est en train de s'effondrer sur elle-même.
Avant d'être le porte-parole de la Conférence des évêques de France, ce soir je suis un prêtre du diocèse de Paris.
Aussi.
Et prêtre de ce diocèse, vous savez, près de 30 ans où j'ai eu depuis la jeunesse les célébrations de mon diocèse. Et je mesure bien combien cette cathédrale est beaucoup plus que parisienne parce qu'elle est un symbole national et international. Mais moi, permettez-moi de dire que comme prêtre, je suis d'une infinie et que cette tristesse, elle n'a pas de nom. Alors, ce que je crois aussi, c'est que Notre-Dame n'appartient pas qu'aux catholiques. Notre-Dame est un symbole de notre pays. Ce n'est pas rien que dans les grands événements qui ont marqué notre pays, qu'ils soient heureux ou tristes, c'est le bourdon de la cathédrale qui sonne, c'est là que se retrouvent les Français, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur religion, pour vivre un moment de communion et pour ce qu'ils veulent pour prier. C'est là où, après les attentats, il y a eu une messe, c'est là où il y a eu, après la guerre, le Tédéum, c'est là où il y a eu tant d'événements qui ont marqué notre histoire, et qu'on n'imagine pas Paris sans sa cathédrale, qu'on n'imagine pas la France sans Notre-Dame de Paris.
Où est-ce que vous êtes en ce moment, Monsieur Rivadeau-Dumas? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Qui êtes-vous? Et à qui vous parlez dans ces moments-là? À qui vous parlez? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est dans la position qui est la vôtre?
Je suis porte-parole de la Conférence des évêques, donc je fais mon travail qui est de répondre aux journalistes. Donc je vis cela, et je vis cela entouré de mes collègues et du secrétariat général.
La question c'était, est-ce qu'on s'appelle entre vous? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez d'abord un prêtre, ce que je peux comprendre quand on voit quelque chose comme ça. Est-ce que vous appelez entre vous? Est-ce que vous vous parlez entre vous? Est-ce qu'il circule des choses pour essayer de comprendre effectivement ce qui se passe autour de nous?
Mais il y a d'abord, avant de comprendre, vous savez, on constate. Et il faut accepter qu'il y ait le temps, c'est la constatation de ce qui est, je crois, vraiment une catastrophe sur le plan architectural et une catastrophe pour beaucoup de croyants sur le plan spirituel. Et en même temps, nous avons cette intime conviction que l'Église, elle n'est pas faite de pierre, mais de pierre vivante, et que donc c'est les chrétiens qui sont le trésor de l'Église. Et donc, c'est ce que nous disons aussi. En même temps, nous avons besoin de nous réconforter parce que ce lieu est chargé d'un sens énorme pour beaucoup.
Vous restez avec nous, si vous le voulez bien, Monsieur Rivadeau-Dumas. Juste quelques secondes, je voudrais passer la parole à Yaël Gauze, qui vient de s'installer ici autour de la table, avec forcément, j'imagine, c'est Twitter, et ce sont des annonces qui viennent d'Emmanuel Macron.
Oui, Emmanuel Macron, qui a donc annulé, on le sait, son allocution prévue ce soir pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Notre-Dame de Paris est en proie aux flammes, écrit-il il y a quelques minutes sur son compte Twitter. Émotion de toute une nation, pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français, et il poursuit... Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. Voilà, tweet posté il y a 8 minutes par le président de la République, qui va donc se rendre sur place pour constater les dégâts. C'est son rôle de chef de l'État ce soir. Hein. Mmh. C'est une mémoire de France qui brûle ce soir. Ça fait partie, évidemment, du rôle. Il faut s'adapter. Évidemment, il n'y avait plus du tout de raison de faire une allocution très politique. On passe à autre chose.
Il y va d'ailleurs avec le Premier ministre. Ils y vont tous les deux.
Et on sait à quel point il y a un rapport entre le président et le fait religieux. Hein. Ça fait partie. C'est quelqu'un d'agnostique, Emmanuel Macron, qui a rencontré le pape l'an dernier, baptisé à 12 ans à sa demande, élevé chez les jésuites. Et il disait, il y a quasiment un an, jour pour jour, devant la Conférence des évêques de France, vouloir réparer le lien entre l'Église et l'État. Donc on sait à quel point ce soir, cette présence sur le parvis de Notre-Dame en flammes aura du sens, sera symbolique. Un chef de l'État, mais aussi un chef de ce patrimoine qui dépasse le simple cadre religieux.
On va retrouver juste dans un instant Mathilde Dehémy, qui est pas très loin. Je voudrais juste, avant de vous laisser repartir, Monsieur Rivadeau-Dumas, avoir votre réaction sur ce que vous venez d'entendre. C'est-à-dire que c'est important, j'imagine, la présence d'Emmanuel Macron, celle du Premier ministre aussi, qui viennent très rapidement sur les lieux de cet incendie.
C'est important parce que, comme je vous le disais, Notre-Dame de Paris n'est pas la propriété des catholiques. Elle est bien sûr un lieu éminemment important pour les catholiques de notre pays, mais c'est un symbole pour l'ensemble des Français en raison de tous ces événements qui s'y sont déroulés dans le cours de notre histoire. Et que le président de la République aille voir ce qui s'y passe avec l'archevêque de Paris, ça me semble quelque chose de très important, effectivement.
Merci beaucoup, merci mille fois. Tombe des réactions qui viennent de partout. J'ai celle d'Angela Merkel là sous les yeux, un symbole de la France et de notre culture européenne. C'est ce que disait aussi Donald Tusk il y a un instant aussi, quelques minutes sur son compte Twitter. Je voudrais qu'on retrouve Mathilde Dehémy. Mathilde, redites-nous où vous êtes exactement, jusqu'où vous avez pu aller donc vous, et qu'est-ce que vous voyez au loin donc de cette cathédrale. Mathilde, est-ce que vous êtes là? Eh bien, je crois qu'on a perdu Mathilde, mais j'espère qu'on va pouvoir la retrouver dans très peu de temps. Mathilde Dehémy, est-ce que vous m'entendez? Eh bien, vraisemblablement, Mathilde ne nous entend pas. C'est pas très grave, on la retrouvera dans un instant. Je voudrais vous décrire encore une fois ces images que nous avons là. Et ce que nous voyons, Rémi Brancato, merci d'être resté autour de cette table, c'est que effectivement, il y avait beaucoup de travaux et ce sont aussi des échafaudages apparemment que l'on voit brûler tout autour de la cathédrale.
Effectivement, on voit les flammes au milieu de ces échafaudages qui sont finalement les seuls à être restés debout sur le toit de la cathédrale, puisque ces échafaudages bardage entourait la flèche de la cathédrale qui était en cours de restauration et qui s'est effondrée, mangée, brûlée effectivement dans la violence de cet incendie qui s'est déclaré tout à l'heure. On le rappelle, un incendie qui se serait déclaré aux alentours de 18h50 en plein office dans cette cathédrale. Et un incendie très violent. Pour l'instant, il est difficile de savoir ce qui s'y passe précisément, comment les pompiers travaillent aux abords ou à l'intérieur de cette cathédrale Notre-Dame de Paris, puisque le dispositif de sécurité est important, imposant, le dispositif de sécurité qui s'étend à l'intégralité de l'île de la Cité. En tout cas, le parquet de Paris annonce à l'instant
l'ouverture d'une enquête, évidemment,
ouvert une enquête pour déterminer, on l'imagine, les raisons de cet incendie.
Et on a entendu tout à l'heure, on a lu, dans un tweet du ministre de l'Intérieur, que les pompiers de Paris étaient mobilisés, étaient extrêmement mobilisés. On peut l'imaginer, je ne sais même pas, Rémi, j'imagine que vous non plus, ce que ça veut dire que la mobilisation des pompiers dans un incendie de cette ampleur-là en ont, parce que ce qu'on ignore encore depuis presque une heure maintenant, c'est comment font les pompiers pour essayer de venir à bout de cet incendie? Où est-ce qu'ils arrivent à rentrer? Est-ce qu'ils arrivent à être réellement efficaces? Ou est-ce que pour l'instant, ils sont intégralement dépassés par ce feu? C'est des réponses que nous n'avons pas.
Effectivement, c'est une question qu'on se pose pour l'instant. Et effectivement, vous le disiez, Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, vient d'indiquer sur son compte Twitter qu'il se trouvait auprès des pompiers de Paris mobilisés avec sang-froid, courage et dévouement, indique-t-il, on l'imagine. Et il se dit bouleversé par cette tragédie. On imagine que le travail des pompiers est très délicat. On voit des images sur les écrans de télévision ici dans le studio de France Inter.
On voit des flammes, voilà. Heureusement on voit des lances à incendie
et
aussi.
Un pompier tenté d'attaquer ces flammes impressionnantes avec une lance à incendie, on imagine que le travail est très loin d'être évident pour les pompiers de Paris.
D'autres réactions politiques, Yael Gauz?
Oui, Olivier Faure pour le Parti Socialiste, soutien aux pompiers mobilisés, immense émotion, pensée pour les fidèles et pour tous ceux qui, n'ayant pas la foi, sont attachés à ce joyau de notre histoire. Marine Le Pen, soutien à nos pompiers valeureux qui luttent pour éteindre l'incendie qui ravage cette merveille de notre patrimoine. Et puis Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques minutes, l'incendie de Notre-Dame poignarde l'esprit de tous. 24 heures de pause politique serait bienvenue.
Alors c'est la question que j'allais vous poser, Yael Gauz, dans ces moments-là, qui est un moment d'une sorte de recueillement national, parce que c'est effectivement un monument extrêmement important à notre échelle, à l'échelle de l'Europe et celle du monde. On met la politique entre parenthèses. On était au milieu d'une séquence extrêmement importante.
On était dans une séquence hyper clivante aussi du point de vue politique. C'était Emmanuel Macron seul contre toutes les oppositions quasiment qui devaient se jouer ce soir et qui devaient convaincre, renverser la table, nous disait-on. On change complètement d'agenda, mais c'est ça la politique, hein. Il faut s'adapter aux circonstances. Et là, effectivement, Jean-Luc Mélenchon demande la pause, l'union nationale. On l'a vécu à plusieurs reprises ces dernières années après des attentats terroristes. Là, ça n'a rien à voir, évidemment, mais on est face à un symbole français qui s'écroule.
Et en ce moment, d'ailleurs, le couple Macron est en route vers Notre-Dame. Bonsoir Stéphane Bern.
Bonsoir.
Merci Stéphane Bern d'être avec nous sur France Inter. Comme à tous les gens qu'on a eu au téléphone depuis le début de cette soirée, je voudrais d'abord que vous nous donniez votre sentiment et votre émotion aujourd'hui en voyant ces images qui sont spectaculairement catastrophiques.
Je pleure, j'ai plus de larmes, je pleure. Je sais pas comment vous dire, mais c'est un symbole, c'est l'histoire de France qui est en flammes. C'est constitutif de notre nation. Qu'on soit catholique ou qu'on ne le soit pas, c'est un symbole qu'il a dans le ciel de Paris depuis près de 1000 ans, puisqu'il a fallu planter ses arbres il y a 1000 ans pour construire au XIIIe siècle cette charpente qui est une forêt que j'ai eu la chance de visiter il y a encore quelques mois, qui était extraordinaire. C'est un trésor national qui est en train de partir en fumée. Les vitraux, le lapidaire, la flèche, les arcs-boutants, c'est un symbole de notre histoire, mais c'est un symbole pour le monde entier. C'est Paris, c'est le premier monument visité en France, bien avant la Tour Eiffel. C'était le monument le plus haut de Paris avant la Tour Eiffel. Et là, de voir ces images, c'est révoltant. Imaginez que de notre vivant, on puisse voir une chose pareille. Je suis ce soir meurtri, touché au cœur, comme tous les Français, et de se dire que tout ça pour ça, quoi, vous voyez, se battre pour le patrimoine, mais quand le joyau de notre patrimoine est en train de disparaître, à quoi bon lutter?
On a eu tout à l'heure Odon Vallée au téléphone, Stéphane Bern, qui nous parlait des orgues, notamment. Quelles sont les pièces à l'intérieur de cette cathédrale? Si on est en train de perdre le bâtiment, c'est déjà une catastrophe terrible en soi, mais qu'est-ce que nous perdons d'autre aussi qui est à l'intérieur? Vous faisiez allusion tout à l'heure aux vitraux, mais il y a mille choses.
Tout est à sauver, il y a mille choses. Les mets de Notre-Dame, des tableaux extraordinaires que les artistes au mois de mai chaque année offraient pour le mois de la Vierge. Il y a le trésor de la cathédrale avec tous les reliquaires, avec les calices, avec tous les objets religieux, liturgiques. Il y a les tissus, je parlais des vitraux, le lapidaire, toutes les statues, évidemment. Mais l'ensemble était à protéger, et je n'en peux plus d'entendre, comme le dit Didier Rickner, de voir que de travaux en travaux, eh bien, chaque fois qu'il y a des travaux sur des monuments historiques, il y a des risques accrus d'incendie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit sauver le patrimoine, mais pas le mutiler par lorsqu'on fait des travaux. J'ai autant de colère que d'émotion, vous le sentez, parce que c'est proprement insupportable de voir ça.
On le sent, on la sent vraiment, votre émotion, Stéphane. J'aimerais que vous reveniez une seconde sur ce que vous venez de nous expliquer. Vous dites qu'il y a trop de travaux sur ce genre de monument, et trop de travaux là, en l'occurrence, sur Notre-Dame et autour de la flèche.
Il y a trop de travaux qui ne sont pas bien protégés. Pourtant, ce sont en général des entreprises du patrimoine, des entreprises qui connaissent les règles. Il faudrait mettre des alarmes. Il y a des alarmes dans tous les monuments, quand ils sont fermés au public, même quand ils sont ouverts. Dès qu'il y a un incendie, évidemment, il y a tout un système qui se met en route. Mais pas sur les échafaudages. Il n'y a pas de système d'alarme pour les incendies qui se déclenchent sur les échafaudages, par exemple, lorsqu'il y a des travaux. Et voilà, au moment où ceux qui font les travaux, ces artisans d'art, quittent les échafaudages, et bien, il y a des risques. Oui, ça peut être un court-circuit, ça peut... Faudra voir, mais vous voyez, c'est arrivé à l'hôtel Lambert à Paris, juste à côté de Notre-Dame de Paris, et maintenant Notre-Dame, les pompiers des premiers ont déclaré que l'incendie a été déclenché sur l'échafaudage.
Vous qui connaissez si bien cet endroit, moi, la question que je me pose depuis tout à l'heure, et je n'ai pas la réponse, c'est comment on fait, comment les pompiers peuvent-ils faire pour accéder à cet incendie qui a donc pris 13 ans en hauteur, en fait.
C'est pratiquement impossible, parce que je suis monté dans la charpente où on avance. Alors tout est fait pour, en cas où une ferme ou une poutre brûle, pour pouvoir y accéder. Mais quand tout l'édifice brûle, c'est impossible. Il faut d'abord monter. J'ai mis beaucoup de temps. Il n'y a pas d'ascenseur. Il faut monter tout en haut. Et ensuite, vous êtes un peu pris comme dans une souricière. Vous êtes pris au piège de cette charpente où on circule mal. Je sais exactement comme les choses... C'est terrible. C'est impossible. Vous dites que, voilà, alors est-ce qu'il faut faire comme d'autres cathédrales des charpentes en béton? Mais c'est pas possible. Cette charpente était une grande beauté. On l'appelait la forêt, tellement elle était belle. C'est un des arbres de mille ans d'histoire.
Est-ce que, Stéphane Bern, après je vais vous laisser repartir, est-ce que, au moment où vous nous parlez là, vous craignez réellement qu'on perde intégralement Notre-Dame de Paris, qu'elle s'effondre sur elle-même et qu'on la perde?
Il y a un risque. Je ne veux pas l'imaginer, mais vous savez, à chaque seconde, je perds espoir. Je me dis, quand j'ai vu la flèche tomber, je me suis dit que... Parce que la flèche qui se consume et qui tombe, elle met le feu à d'autres éléments de l'édifice.
Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci pour votre émotion, Stéphane Bern, vraiment, avec nous sur France Inter. On a la même que vous. Nous voyons les images et au fur et à mesure, on comprend ce qui est vraiment en train de se passer sous les yeux de tous les Parisiens, sous les yeux du monde entier. Je voudrais qu'on retrouve Mathilde de Emmy. Mathilde, où est-ce que vous êtes d'abord? Jusqu'à quel point on vous laisse approcher? Vous le disiez tout à l'heure, c'est quasiment l'ensemble de l'île de la Cité, évidemment, qui est fermée.
Oui, oui, et Fabienne, on a dû reculer hein, parce qu'on n'arrivait pas à vous joindre, parce qu'il y a un flot de passants, de Parisiens, de touristes qui ont aussi peur de perdre Notre-Dame de Paris et qui s'approchent de ce pont Saint-Louis qui est l'ultime pont avant d'arriver sur l'île de la Cité par l'arrière de Notre-Dame de Paris. Nous sommes sur le pont juste avant parce que nous avons voulu voir aussi cette toiture qui brûlait, qui nous échappait un petit peu tout à l'heure quand on a vu la flèche tomber. Là, ça va mieux. Les fumées sont plus noires que tout à l'heure, mais il y a moins de fumée. Par contre, il y a encore des flammes gigantesques, des flammes qui, pour tout à l'heure...
Ah, on vous a reperdu et on comprend pourquoi... Ah, pardon, allez-y Mathilde.
Oui, je disais, tout à l'heure, les flammes étaient tellement impressionnantes qu'on voyait elles montaient jusqu'à hauteur des deux tours de Notre-Dame de Paris. Alors, je peux pas vous dire d'ici si la toiture est totalement brûlée, mais on a vu tout à l'heure qu'un squelette, le squelette des échafaudages, noyé dans les flammes. Impossible de vous dire si la toiture a résisté, ce qui m'étonnerait fortement.
Je vais vous reposer la même question que tout à l'heure, Mathilde. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que vous avez pu voir, peut-être entendre tout simplement avec les sirènes, ce que l'ampleur du dispositif pompiers pouvaient signifier autour de Notre-Dame? Ça veut dire non, je crois.
C'est de la gendarmerie sur la zone. Et la deuxième chose, c'est que même si l'incendie est en cours et on imagine que tous les moyens des pompiers ont été mis en place dès le départ, les camions de pompiers continuent de converger vers Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire qu'on les entend dans notre dos. Puis ils essaient de revenir vers Notre-Dame de Paris. Ce sont sûrement les casernes l'extérieur de Paris, de la banlieue parisienne, qui se joignent aux opérations.
Et pour l'instant, Mathilde, on a du mal à vous entendre et on comprend pourquoi. Vous nous avez expliqué, il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de Parisiens qui sont en train d'essayer d'approcher, voir un peu ce qui est en train de se passer autour de ce bâtiment qui, j'allais dire, appartient à Paris et aussi appartient à tout le monde. Rémi Brancato, est-ce qu'on peut refaire un point assez terrible? Est-ce qu'on sait? On sait que la flèche est tombée, on sait que la toiture est extrêmement endommagée. Est-ce qu'on peut dire des choses sur l'état pour l'instant de Notre-Dame de Paris?
Alors c'est très compliqué de savoir précisément, évidemment, puisqu'il y a ce périmètre de sécurité que décrivait Mathilde Dehimy à l'instant, qui s'étend quasiment à l'intégralité de l'île de la Cité. Difficile de savoir effectivement quel est l'état de la cathédrale à l'heure où l'on se parle. En tout cas, le feu est très violent. Mathilde le décrivait, des flammes qui sont des flammes d'une hauteur impressionnante, qui atteignaient quasiment la hauteur des deux tours de Notre-Dame de Paris, des moyens de pompiers très importants. On le rappelle également, il est pour l'instant conseillé d'éviter le secteur pour faciliter évidemment le passage des véhicules de secours d'intervention. C'est un message de la préfecture de police. On le voit, Mathilde le disait, il y a beaucoup de badauds, de promeneurs qui viennent assister à ce terrible spectacle. On voit également les images notamment de la place de l'Hôtel de Ville, non loin de la cathédrale Notre-Dame, où beaucoup de gens regardent ce qui se passe. Difficile effectivement de savoir. Pour faire un point précisément, effectivement la flèche qui était en cours de rénovation sur le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris s'est effondrée. Une partie du toit serait endommagée, ou une grande partie du toit. C'est en tout cas ce qu'indiquait un journaliste de l'agence de presse Reuters, qui aurait été témoin effectivement de cela. Quant à savoir quel est l'état de la cathédrale et des œuvres d'art, notamment qu'elle contient, difficile évidemment de le dire pour l'heure, puisque cet incendie se poursuit.
Et c'est bien ce qu'on disait effectivement tout à l'heure, c'est très compliqué non seulement de savoir jusqu'à quel point les choses sont ravagées à l'intérieur, mais jusqu'à quel point les pompiers peuvent travailler aussi à l'intérieur. Yael Gauze, rapidement pour d'autres déclarations, réactions politiques.
Et d'abord cette information, Emmanuel Macron et le Premier ministre sont arrivés à la préfecture de police qui se trouve juste en face du parvis de Notre-Dame. Ils font un point de situation en ce moment avec les pompiers, en présence également de la maire de Paris, Anne Hidalgo, du ministre de la Culture, Franck Riester, également de prêtres qui officient à Notre-Dame. Des réactions en chaîne sur Twitter. Marion Maréchal, dévastée par la destruction de Notre-Dame, notre cœur de Français saigne. Pourvu que soit sauvé ce qui peut l'être. Laurent Wauquiez pour les Républicains. Désolation en voyant partir en fumée ce symbole de nos racines chrétiennes, de la littérature de Victor Hugo. C'est toute une part de notre histoire, de nous-mêmes, qui brûle ce soir. François-Xavier Bellamy, tête de liste LR pour les Européennes. Désespoir devant ces images de Notre-Dame de Paris, fleuron de notre civilisation, point de départ de toutes les routes de France.
Et c'est, on le disait tout à l'heure, Yael, on est à un moment politique important. Du coup, chaque chaque tête de liste là va défiler sur son compte Twitter, faire des déclarations pour parler évidemment de cet événement qui se déroule devant nous.
Et ce qui montre à quel point ce monument transcende évidemment l'histoire, transcende les clivages et réunit les Français et leur classe politique.
Et vous le disiez donc, et on les voit arriver sur les images que nous avons là en face de nous, donc Emmanuel Macron, Anne Hidalgo qu'on a aperçu, Franck Riester aussi, le ministre de la Culture qui évidemment est là également. Bonsoir Jean Lebrun.
Bonsoir à vous.
Merci beaucoup Jean d'être avec nous, on ne vous présente pas, vous êtes surtout l'historien que nous connaissons. Moi j'aimerais, comme je le demande à tous les gens qui interviennent sur l'antenne de France Inter là depuis une grosse heure, j'aimerais que vous nous disiez quel est votre sentiment quand on voit partir en flammes, parce que c'est vraiment ça, partir en flammes Notre-Dame de Paris. C'est d'abord le sentiment et l'émotion qui est la vôtre que je voudrais que vous nous décriviez.
Bah, c'est un autographe qui est en train de brûler, un palimpseste. Parce que Notre-Dame, c'est une sédimentation d'histoire. Et il faudrait même raconter ce qu'il y avait à cet endroit-là, avant Notre-Dame.
C'est-à-dire, allez-y, racontez-nous.
De cultures diverses, on est au croisement du Cardo, l'axe nord-sud, du Décumanus, l'axe est-ouest, et sous ce temple gallo-romain, il y avait peut-être des autels païens dédiés à des divinités dont on ne sait ce qu'elles étaient. Et ce palimpseste, il a continué à se construire, à se sédimenter de génération en génération. Alors vous savez que la Révolution française avait imaginé, ou du moins certaines personnes, pendant la Révolution française, dans un contexte d'épuration, avaient imaginé non seulement de la dédier à la raison, ce qui a été fait, mais de la raser et de la détruire. Mmh. Et il y avait eu en 1831 une grande émeute révolutionnaire dont on ne se souvient pas, qui avait abouti au sac et à l'incendie de l'archevêché, qui était tout proche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On avait jeté les papiers de l'archevêque à la Seine jusqu'à ses pots de confiture. Et en 1845, sous la monarchie de Juillet, est décidée la reconstruction, la restauration du moins, par Viollet-le-Duc. Et alors Viollet-le-Duc, c'est formidable, parce que c'est à la fois la recherche de l'architecture gothique, du vocabulaire gothique, jusque dans ses bizarreries. Viollet-le-Duc s'aperçoit que les portails ne sont pas symétriques, que les tours ne sont pas exactement symétriques, et il décide de respecter ces bizarreries et il y ajoute ses propres fantaisies. Alors, ce qui était aussi extraordinaire à Notre-Dame, c'était ces gargouilles, ces chimères qu'il avait ajoutées et qui étaient de sa plume, de son dessin, de son invention, et parmi lesquelles il y avait une figure humaine qui était sans doute l'alchimiste, qu'on retrouve dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui date à peu près de la même époque, et où un des personnages est l'archidiacre fou qui célèbre des antimesses, des messes diaboliques, et qui recherche, comme des alchimistes, dans Notre-Dame de Paris, une architecture mystérieuse des inscriptions latines sur les stèles funéraires chrétiennes, des signes kabbalistiques sur les vitraux. Au-delà du monument chrétien, c'était une sédimentation de l'histoire de France, parce qu'on ne peut pas parler de Notre-Dame à l'imparfait, c'est absolument impensable.
Merci beaucoup, merci mille fois Jean Lebrun de nous avoir rappelé tout ça. C'est vrai qu'on va beaucoup parler au cours de cette soirée, demain et après, du haut lieu de la foi catholique qu'est Notre-Dame, mais c'est tellement plus aussi, et c'est ce que vous venez de nous rappeler avec beaucoup de brio. Bonsoir Bertrand Delanoë.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien maire de Paris, évidemment, là aussi j'aimerais avoir votre sentiment. Où êtes-vous? Où est-ce que vous regardez ces images qui sont absolument catastrophiques?
Pour le moment, je les regarde chez moi, sur une télévision. Je suis absolument, mais vraiment malheureux comme tout, d'une tristesse immense. Je le ressens comme un coup au cœur. Un coup au cœur pour nous tous, les Parisiens, mais bien au-delà. Parce que vous savez, Notre-Dame de Paris, c'est un patrimoine spirituel, c'est un patrimoine culturel, architectural, qui bien sûr appartient aux catholiques. Et j'exprime ma solidarité avec eux, mais qui appartient à l'humanité. C'est pas pour rien que Notre-Dame est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Parce que c'est vraiment les générations qui nous ont précédés, les générations futures, qui sont les propriétaires de ce symbole, de cette beauté. Et en même temps que nous sommes si tristes, j'espère que dès maintenant, on se préoccupe de faire revivre Notre-Dame, c'est-à-dire que il y a déjà beaucoup de choses abîmées, semble-t-il, mais il faut que Notre-Dame de Paris vive. et que tout le monde se mobilise pour la reconstruction de ce qui aura été détruit. En attendant, je suis sûr que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est admirable, fait vraiment le maximum pour sauver ce qui peut l'être.
On imagine bien, absolument, on imagine surtout qu'ils sont extrêmement nombreux. Bertrand Delanoë, vous qui avez été maire de Paris, qu'est-ce qu'on dit aux Parisiens le lendemain, au moment d'une catastrophe de cette ampleur-là? Vous l'avez un peu déjà évoqué. Déjà, vous parlez de reconstruction. Il faudra surtout pas qu'on reste sur cette image catastrophique et qu'on reste sur cette image d'une cathédrale calcinée. Mais en même temps, ce sera plus jamais pareil.
Mais je suis sûr que la maire de Paris, le président de la République, tout le monde saura trouver les mots. Moi, ayant gardé ce lien très fort et très affectif avec Paris, avec les Parisiens, je peux simplement partager leur tristesse, leur désarroi, parce que je les ressens moi-même. Et même en vous parlant, je suis extrêmement ému, extrêmement triste, parce que, voilà, je vous ai parlé d'un coup au cœur, Notre-Dame de Paris dans notre cœur. Et nous savons que nous partageons cet amour de Notre-Dame de Paris avec, bien sûr, tous les Français, tous les catholiques au premier chef, mais au-delà, bien au-delà. Et cette émotion que ça provoque dans le monde entier doit nous donner du courage, justement, pour faire en sorte que, bon, bah, de ce drame puisse sortir quand même une détermination totale pour que Notre-Dame de Paris puisse revivre et que ce qui est en train d'être détruit puisse être construit.
Merci beaucoup. Tiens, restez avec nous juste une seconde. Yael Gauze a une question pour vous, Monsieur Delanoë. Allez-y, Yael.
Est-ce que vous dites fluctuat nec mergitur ce soir, Monsieur Delanoë?
Non, je vais être un peu égoïste. Je pense à une très belle émotion que j'avais la semaine dernière à Notre-Dame de Paris. J'étais allé écouter la Passion selon Saint-Jean par la maîtrise de Notre-Dame. Vous savez, Notre-Dame, c'est beaucoup de choses, c'est aussi la maîtrise, c'est une communauté. Et je dis, c'est triste, ça nous bouleverse. Je suis sûr que cette tristesse est très, 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 très largement partagée. Eh bien, après un deuil, qu'est-ce qu'on fait? On se reconstruit et on essaye de servir la vie. Eh bien, il faudra servir la vie future de Notre-Dame.
Merci beaucoup Bertrand Delanoë, merci de votre réaction avec nous sur France Inter. Je voudrais qu'on écoute André Finot, c'est le responsable communication de la cathédrale. Donc c'est à lui d'ailleurs, Rémi Brancato, que vous aviez réussi à parler brièvement. C'est quelqu'un, évidemment, on l'imagine, qui est extrêmement sollicité en ce moment. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il peut dire, en tout cas, au moment où on se parle.
Je suis de l'autre côté du parvis, à quelques mètres de l'entrée de la préfecture de police. Et j'assiste maintenant depuis à peu près une heure et demie, et totalement impuissant, à la disparition de la charpente de la cathédrale, une charpente pour moitié 13e siècle et pour autre moitié 19e siècle. Voilà, tout s'est évaporé. C'est très triste. Nous étions lancés dans une très grande opération pour restaurer la cathédrale, qui en avait bien besoin. C'est terrible. Vous savez, l'État a fait tout ce qui était en œuvre pour préserver ce monument, qui est un joyau de l'architecture gothique. 12 millions de visiteurs par an du monde entier. C'est le monument le plus visité d'Europe. Les gens de toute nationalité viennent admirer, croyons ou non, viennent admirer ce chef-d'œuvre. Et de là, voir une partie de sa charpente qui n'a jamais été ouverte au public, qu'on a toujours essayé de préserver. L'État qui a toujours fait un travail considérable avec des détecteurs incendie placés un peu partout, un personnel de sécurité incendie permanent, enfin présent en permanence, et voir que tout ça s'est arrêté en quelques minutes, c'est terrible, c'est terrible.
C'est André Finot, donc responsable communication de la cathédrale, qu'on a pu joindre il y a quelques instants, qui parlait notamment de ces fameux détecteurs de fumée. Stéphane Bern, à l'instant, tout à l'heure d'ailleurs, semblait dire que peut-être qu'il en faudrait plus. Ça fait partie, Rémi Brancato, rapidement, de toutes les choses qu'il va falloir élucider rapidement, dans les jours ou les semaines qui viennent. Quand on commencera à travailler sur l'enquête et comprendre ce qui a pu se passer.
Une enquête qui a été ouverte, Fabienne, par le parquet de Paris. Cela a été annoncé il y a environ une heure. Comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on en sait en tout cas pour l'instant, c'est que cet incendie s'est déclenché aux alentours de 18h50 pendant l'office du soir à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est ce que m'indiquait il y a quelques heures maintenant André Finot, qu'on vient d'entendre sur France Inter. Cet incendie qui se propage très rapidement, et une alarme incendie s'est déclenchée pendant cet office. L'intégralité des personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la cathédrale ont pu être évacuées. D'ailleurs, la mairie de Paris nous indique à l'instant sur son compte Twitter qu'un lieu a été ouvert dans le 4e arrondissement, la halle des Blancs-Manteaux, un lieu qui est destiné à accueillir les habitants de l'île de la Cité, puisque le périmètre de sécurité est très large aux abords de ce monument historique. En tout cas, André Finot en parlait à l'instant, le responsable de la communication de la cathédrale Notre-Dame. Cet incendie serait sans doute partie des combles de la cathédrale. On sait que la charpente de Notre-Dame de Paris est faite de bois, qu'elle est difficilement accessible, et cette charpente serait en partie détruite. En tout cas, c'est ce qu'on imagine en voyant les images de cette cathédrale en flammes, des flammes très hautes qui allaient presque au-delà des deux tours de la cathédrale. Et cet incendie serait sans doute partie des travaux de rénovation, de restauration autour de cette flèche de la cathédrale Notre-Dame, une flèche qu'on a vue s'effondrer durant cet incendie.
Et toujours extrêmement impressionnant, ce qui est fou quand on regarde les images, on va rejoindre Mathilde Dehémy dans un instant, c'est qu'on voit encore les échafaudages, en fait.
Oui, donc ces échafaudages
ça brûle terriblement autour, mais certains de ces échafaudages sont encore là, en train de brûler, donc on les voit encore, ce qui est une image absolument sidérante.
Et Stéphane Bern évoquait justement peut-être des risques liés à ce chantier. Ces échafaudages qui entouraient la flèche de la cathédrale sont toujours debout, vous le disiez, Fabienne. En tout cas, j'avais grimpé sur ces échafaudages il y a quelques jours, jeudi, pour visiter ce chantier de restauration de la flèche. Il y a deux ascenseurs sur ces échafaudages, donc il y a des installations électriques. Est-ce que ces installations électriques peuvent-elles être à l'origine de cet incendie? C'est évidemment l'une des questions auxquelles devront répondre les enquêteurs.
Rémi Brancato qui reste avec nous, évidemment. Mathilde Dehémy, évacuée un peu loin de l'île de la Cité par les autorités, on comprend pourquoi, mais vous êtes en ce moment avec une Parisienne, Mathilde.
Oui, je suis avec Anne qui habite un tout petit peu plus loin dans le Marais et qui me racontait qu'elle avait vu, elle, le début de l'incendie. Elle va vous le raconter en direct. Allô ?
Allô, on vous écoute, Anne, et merci d'être avec nous en direct sur France Inter.
Écoutez, là, je suis sur le pont de la Seine, donc je suis descendue avec mon mari que j'ai perdu dans la foule. Pratiquement immédiatement, en fait, moi, j'avais un copain qui est arrivé en me disant à 19h, il y a quelque chose qui se passe, je crois que c'est Notre-Dame du Paris, j'y croyais pas. Et puis, on a commencé à écouter, à regarder, je suis allée sur le site du Monde, j'ai rien vu. Et puis, petit à petit, j'ai vu, je suis allée en haut de chez moi, je voyais les flammes, j'ai pris des photos, j'ai envoyé ça à toute ma famille, il y en a qui sont aux États-Unis, ma fille, mon fils, ils m'ont envoyé immédiatement des mots, on est tous complètement estomaqués. Et moi, j'ai une vraie question quand même, je comprends pas. Moi, je m'appelle Garide, chez moi, quand il y a un feu, il y a des canadaires, quoi. Et là, j'ai l'impression que on assiste tous médusés à cette merveille qui s'effondre et on se dit, mais personne n'a anticipé, c'est ça, mais je sais pas.
Enfin, alors, je sais pas comment ça se passe, bon. Vous savez, Anne, pour balancer des canadaires au-dessus de Paris et sur la flèche de Notre-Dame, je pense que...
C'est une vieille dame qui souffre, quoi. C'est presque une personne. Bon, en termes d'histoire de... Et puis je suis inquiète même de façon concrète, c'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est le toit, mais après les œuvres à l'intérieur, enfin, il y a différents niveaux de dégâts, quoi. Quels sont les niveaux de dégâts? Pour l'instant, on n'en sait rien. Hein.
Et c'est vrai, et ce sont les questionnements, merci beaucoup pour votre témoignage, Anne, ce sont les questions que tout le monde se pose, évidemment, ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui a brûlé, qu'est-ce qu'on pourra sauver, Yael Gauze.
Et comment réagir aussi pour le travail des pompiers? Ce que dit notre auditrice à l'instant, c'est ce que dit Donald Trump aussi aux États-Unis.
Absolument.
Qui regarde médusé les images
dit,
sur sa télé
vite.
Et envoyer des canadaires à Paris.
Oui.
Sauf que c'est pas adapté à la situation.
Non, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Hélas, j'ai presque envie de dire, mais c'est pas comme ça que ça marche. Bonsoir Jean-Michel Villemotte.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous, Monsieur Villemotte, sur France Inter. Oui. Vous êtes grand architecte, vous avez travaillé notamment sur le Grand Louvre. Moi, j'aimerais le regard de l'architecte. D'abord, on parle beaucoup d'échafaudages ce soir. On parle beaucoup de ces échafaudages autour de la flèche. On parle du danger que ça représente. Vous savez exactement ce que sont des travaux sur des monuments de ce genre-là. Est-ce qu'il y a trop d'échafaudages sur les monuments historiques, Monsieur Villemotte?
Non, parce que, si vous voulez, grosso modo, ils venaient d'enlever des statues. Vous savez, il y a les 12 apôtres qui, heureusement, ont été démontés il y a quelques semaines. Qui venait d'être enlevé. On a besoin quand même d'un échafaudage relativement important, parce qu'il y a des prises aux ans qui sont énormes, et je comprends très bien qu'il y ait des grands échafaudages. Après, cette nef qui a été comme une espèce de grande structure de bateau retournée, si vous voulez, c'est quelque chose d'une beauté invraisemblable. Elle a été conçue quand même au XIIe siècle et réalisée... Après, il y a eu la période de restauration, mais je pense que on a besoin de ces échafaudages, effectivement, pour même pour la sécurité des gens qui y travaillent.
Alors, monsieur Villemotte, d'abord, est-ce qu'on a une idée, vous connaissez, vous, ce bâtiment, est-ce qu'on sait, en l'état, vous qui connaissez son architecture, si, quand le feu prend si haut, là-haut dans la flèche, donc dans les combles, est-ce qu'on sait si le risque, c'est de voir s'effondrer Notre-Dame sur elle-même? C'est-à-dire, bah, écoutez, je le disais tout à l'heure, de perdre Notre-Dame.
Ça dépend de l'air, s'il y a un tout petit peu de vent, on est en partie haute, vous savez, un tout petit peu de vent, ça attise et c'est un vrai braseau en quelques minutes, vous savez. Bon, après, la flèche qui avait été refaite par Viollet-le-Duc, elle s'effondrait. Bon, c'est une grande tristesse parce que c'est parti d'un symbole énorme, enfin, dans l'alignement entre le Louvre, l'Arc de Triomphe, la Défense, ça fait partie, c'est l'icône de Paris, si vous voulez. Et bon, c'est vrai que cette flèche, elle avait déjà été démontée, elle a été refaite par Viollet-le-Duc après le 19e, mais je trouve ça très étonnant, l'ensemble est parti à une vitesse invraisemblable, c'est la charpente tenait la structure qui tenait la flèche.
Qu'est-ce qui se passe, monsieur Villemotte, dans ces cas-là? Parce que cet incendie, évidemment, finira par être éteint, et Bertrand Delanoë en parlait à l'instant, on parlera reconstruction, le débat viendra, on peut pas imaginer...
C'est l'occasion, je pense qu'il y a presque un espèce de grand élan national à faire, de la volonté de reconstruire un des symboles de la France, et c'est peut-être une occasion de rassembler... toute une série de volontaires, de gens qui sont attachés à leur pays et qui disent on va faire quelque chose, et il y a peut-être un grand mouvement à créer autour de ça. Je pense que on est capable de faire des grands mouvements. Je pense que ça, c'est une occasion d'en faire un exceptionnel.
On peut et on sait reconstruire un bâtiment comme Notre-Dame.
Sans problème, on pourra pas le faire à l'identique, si vous voulez, parce qu'avant, c'était des techniques qui étaient faites au 12e siècle. Bon, si c'était des pièces de bois colossales, si vous voulez, c'était des arbres entiers qui rentraient dans cette structure. Avec des assemblages, on n'aura jamais ces assemblages, on ne pourra jamais les refaire. Il nous faudrait 50 ans pour le refaire à l'identique, si vous voulez. Ben, ça peut être refait. Nous, on a refait récemment le tas de voitures des Bernardins, par exemple. On l'a fait avec une structure métallique. Bon, c'est peut-être triste, mais c'est la seule façon de faire rapidement et de redonner sa silhouette à cette cathédrale.
Et justement, ce sera la dernière question, M. Villemotte. Est-ce qu'il faudrait, quand on voit un incendie de ce genre, on se dit, est-ce qu'il aurait fallu refaire un certain nombre de structures dans d'autres matériaux, notamment des matériaux métalliques, pour justement éviter qu'un monument de ce genre puisse s'effondrer sur lui-même? Est-ce qu'on se dit, lorsqu'on rénove, et Dieu sait qu'évidemment on a remis la main sur Notre-Dame au fil des siècles, que peut-être il faudrait parfois introduire effectivement le métal, le béton, des matériaux qui ne sont pas les matériaux nobles, qui ne sont pas les matériaux d'origine, mais qui éviteraient un effondrement comme celui auquel on assiste?
Vous savez, le métal aussi brûle très facilement. Peut-être, et ce torsade est aussi dangereux, si vous voulez. Non, je pense que c'est des systèmes de détection et qui déclenchent des systèmes de sécurité qui sont plus importants, ce qu'on appelle les sprinklers, mais qui peuvent abîmer une... On a toujours peur de le mettre dans les monuments historiques parce que ça abîme les fresques, mais c'est mieux peut-être de sauvegarder les structures. Donc il y a des systèmes de détection qui sont très efficaces, ou le système de poudre qui fait qu'on annule tout de suite les départs de feu. Mais vous imaginez le nombre de cathédrales, de monuments historiques comme ça qui est dans Paris, dans toute la France, si on devait mettre ce genre de système, mais c'est la solution.
Merci beaucoup, merci vraiment Jean-Michel Villemotte, architecte, grand architecte, avec nous ce soir sur France Inter. Bonsoir Yann Gallic. Yann, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Ah, formidable. Expliquez-nous où vous êtes, Yann, en fait, exactement. Qu'est-ce que vous pouvez voir, vous? Parce que vous êtes arrivé effectivement à proximité, mais on a bien compris que c'était évidemment difficile de s'approcher même de l'île de la Cité. Donc, où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez voir? Oula! Oula! Je vous entends pas, Yann. Pardon, on va essayer de rétablir la liaison correctement, parce que je sens bien que votre valise satellite que votre valise satellite a des soucis. En attendant, bonsoir Monsieur Zinc.
Bonsoir.
Vous êtes médiéviste au Collège de France. Merci beaucoup d'être avec nous sur France Inter. Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner votre sentiment et j'imagine votre émotion quand on est médiéviste et qu'on voit brûler Notre-Dame de Paris?
Oui, mais c'est pour moi une tristesse infinie, non seulement pour ce que Notre-Dame représente aujourd'hui dans le paysage parisien, dans ce qu'elle a représenté pour l'histoire de France, tout au long de l'histoire de France, mais moi qui suis médiéviste, non seulement je suis médiéviste, mais j'ai passé des années avec l'évêque qui a fait construire Notre-Dame de Paris, Maurice de Sully, qui l'a fait construire à partir de 1163, et qui, dans un même élan, a fait construire cette cathédrale et a été le premier... enfin non, peut-être pas le temps, le premier à écrire une suite de sermons pour tous les dimanches de l'année en français pour que le peuple comprenne. Et pour moi, dans un même élan, il y a cette cathédrale qui rassemble, qui a rassemblé tout le peuple chrétien au Moyen-Âge, mais maintenant qui rassemble la France entière et le monde entier, et cet effort de l'évêque qui l'a fait construire pour s'adresser à tous, pour être compris, pour enseigner ce qu'il pensait devoir dire. Et c'est à la fois un monument et un effort intellectuel et spirituel que je vois s'effondrer.
Qu'est-ce que, j'allais vous poser la question comme ça, Michel Zinc, qu'est-ce qu'on est en train de perdre là sous nos yeux? C'est pas seulement un bâtiment vieux de plusieurs siècles, c'est pas seulement les œuvres d'art. Qu'est-ce qu'on perd là sous nos yeux?
Mais nous perdons, je crois que nous perdons ce que nous saurons perdre ou ce que nous saurons que nous perdons. Le monument, bien sûr, il a disparu en partie et on le restaurera comme on pourra. Mais nous pouvons, si nous prenons conscience de ce que nous perdons, de ce qu'a représenté toute cette pensée, tout cet art mis au service de la beauté, toute cette réflexion mise au service d'une foi qui est inscrite, que tout se partage pas, mais qui a porté et consolé tellement au cours des siècles, à ce moment-là, nous pouvons, nous, prendre conscience que plus nous cherchons en nous-mêmes, plus nous essayons de comprendre qui nous sommes et qui nous sommes par rapport au passé, par rapport au passé des autres, ce qu'il nous a apporté, ce que nous pouvons en garder, eh bien, si cet accident nous invite à faire cela, d'une certaine façon, tout ne sera pas perdu. Parce que la vraie vie est dans les êtres vivants et on peut toujours espérer qu'ils sauront à la fois reconstruire, restaurer peut-être, mais aussi trouver un sens à ce qui était devenu trop familier.
On reconstruit ou on restaure ou on refait depuis rien en fait.
Oui.
On n'a pas la réponse encore à cette question en fait.
On ne sait pas. En regardant des images, ce qui m'effrayait, c'était l'idée que les vitraux pouvaient éclater au fond. Alors, je ne sais pas où ça en est. Sur les images, on ne le voyait pas, mais enfin, ça ne veut rien dire. Et la charpente était unique. Et puis, comme j'écoutais M. Villemotte il y a un instant, évidemment, on ne pourra pas reconstruire une telle charpente. On pourra reconstituer la silhouette de Notre-Dame. On pourra reconstituer une silhouette, mais une silhouette qui a changé au cours des siècles. Mmh. Et on peut se réconforter comme cela. Quand Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris, la flèche de Viollet-le-Duc n'existait pas. La flèche de Viollet-le-Duc est fidèle à une inspiration médiévale, mais elle est aussi fidèle à l'image que se faisait du Moyen-Âge Victor Hugo. Merci. Encore une fois, nous pensons les choses autant que nous les voyons et nous pouvons continuer à vivre de cette façon.
Merci beaucoup Michel Zinc et merci aussi de ce message-là. Nous verrons effectivement tous une autre Notre-Dame, comme il y en a eu plusieurs au fil des siècles. Yann Galli, qu'est-ce qu'on vous a retrouvé, Yann ?
Normalement, oui, Fabienne.
Eh bien, absolument.
Je suis avec vous.
On vous a retrouvé. Dites-nous où vous êtes, Yann, et ce que vous voyez, parce qu'on sait bien que c'est compliqué d'accéder à l'île de la Cité. Donc, qu'est-ce que vous voyez ou jusqu'où avez-vous pu aller?
Eh bien, je me trouve actuellement sur la place Saint-Michel, juste en face de la cathédrale Notre-Dame. Vous pouvez l'imaginer, il y a ce soir des milliers de personnes, des badauds, touristes, parisiens qui se sont rassemblés derrière les barrières de sécurité dans un silence pesant. Silence parce que, évidemment, la circulation est entièrement bouclée dans tout le quartier. La plupart des stations de RER et de métro autour de Saint-Michel ont été fermées. Et les gens errent un peu dans la rue, désemparés, désappointés, en voyant encore cette fumée, cette épaisse fumée qui s'échappe de la toiture de Notre-Dame. Une dame à côté de moi, elle est en train de prendre des photos, les larmes aux yeux. Les gens sont évidemment très choqués. Et ce qui explique aussi la mauvaise qualité des des communications, bien c'est que tout le monde essaye d'appeler des proches pour raconter, pour envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Les gens ont beaucoup de mal à imaginer ce qui est en train de se produire, voir ce symbole effectivement qu'est la cathédrale Notre-Dame en feu. Les pompiers sont encore sur place, hein, on voit les lance à eau encore.
Évidemment, et j'allais vous demander, Yann, pardon de vous interrompre, qu'est-ce que vous voyez en termes de pompiers? Parce que c'est compliqué d'imaginer la nuée des pompiers qui doivent être sur le parvis, et surtout comment ils parviennent par où ils attaquent cet incendie. Est-ce que vous pouvez le voir? Ou comme Mathilde Hémy nous l'a raconté tout à l'heure, vous êtes trop loin, vous ne pouvez pas le voir vous non plus?
De là où je me trouve, j'ai du mal à effectivement à voir ce qui se passe sur le parvis. Mais j'ai quand même une vue assez dégagée sur la façade principale de la cathédrale Notre-Dame. Et là, je viens d'apercevoir des pompiers avec des lampes frontales qui ont réussi à se hisser en haut de cette façade sur le balcon entre les deux tours principales. Et toujours ces lances à eau, hein, qui essayent de maîtriser l'incendie. Mais comme le disait la plupart de vos invités, la charpente est entièrement, quasiment entièrement détruite.
Merci beaucoup Yann Gallic. Je voudrais qu'on rejoigne Christophe Girard. Bonsoir Monsieur Girard.
Bonsoir.
Vous êtes à la cellule opérationnelle de veille à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous, qu'est-ce que vous voyez? Et notamment sur ce que disait Yann Gallic à l'instant, est-ce que vous savez comment on lutte contre cet incendie au moment où on se parle?
Bah écoutez, puisqu'en direct, depuis le début de l'incendie, nous sommes en relation à la fois avec Mgr Chauvet, la maire de Paris est sur place depuis le début de l'incendie avec lui, donc on est absolument en liaison constante. Et les images sont devant nous, donc on a vu évidemment l'évolution de l'incendie. La charpente et la flèche s'effondrer, mais à ce moment où nous parlons, l'essentiel est, bien sûr que nous comprenons que les touristes et les Parisiens curieux prennent des photos, l'essentiel est de s'écarter du lieu, de laisser à la fois les pompiers et les forces de police travailler. Nous sommes en train d'ouvrir un certain nombre de lieux comme la mairie du 4e, comme l'espace des Blancs-Manteaux, de manière à pouvoir permettre aux habitants qui habitent rue Chanoinesse, qui habitent rue du Cloître Notre-Dame, la rue d'Arcole, l'Hôtel Dieu, de pouvoir en effet être hébergés ce soir. Mais il ne faut pas que les Parisiens et les touristes et les curieux soient en nombre sur la passerelle et sur les ponts. C'est absolument essentiel de dégager cet espace pour permettre en effet aux pompiers de pouvoir continuer à agir comme ils le font depuis le début de l'incendie. C'est un appel que je vous adresse.
Et l'appel est entendu, Christophe Girard. Comment, est-ce que vous savez, vous, comment les pompiers arrivent à travailler? C'est-à-dire, par où on l'attaque cet incendie? Comment ça se passe en fait?
Voyons, c'est que les pompiers qui sont, comme vous savez, les pompiers de Paris, de grands professionnels et des héros, agissent depuis le début de l'incendie d'une manière extrêmement coordonnée. Le général Gallet également est sur place, donc il faut les laisser faire et je ne peux pas vous en dire plus, bien évidemment.
Est-ce que vous savez, Christophe Girard, parce qu'on a vu donc la flèche s'effondrer, on sait que la toiture est extrêmement fragilisée, peut-être effondrée, qu'est-ce qui se passe avec les tours, par exemple? Est-ce qu'il y a... Où sont le prochain danger? Où est-il?
Écoutez, comme les spécialistes sur votre antenne et le disent depuis ce soir, il y a ce qui est en pierre et il y a ce qui est en bois et ce qui peut fondre. Donc, à ce moment où nous parlons, il est vrai que ce qui était évidemment inflammable est parti en fumée et que maintenant, évidemment, la pierre, elle, résistera, bien heureusement. Mais aujourd'hui, à ce moment où nous parlons, c'est vraiment la sécurité des Parisiens qui est absolument primordiale.
La sécurité des Parisiens qui est primordiale, et vous l'avez rappelé, évitez, la préfecture de police de Paris le dit sur Twitter au moment où on se parle, Christophe Girard, attention, évitez le secteur, facilitez le passage des véhicules de secours et d'intervention, c'est ça le plus important. Rémi Brancato, on va bientôt entendre le flash de 21h, juste un mot pour arriver jusque-là.
Bien écoutez, on va simplement rappeler ce qui s'est passé depuis 18h50. 18h50, c'est l'heure à laquelle cet incendie s'est déclenché à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'alarme a retenti durant l'office de 18h15. Les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de ce monument historique ont dû évacuer. Un incendie très violent avec des flammes qu'on voit sur les écrans de télévision qui ont atteint la hauteur des deux tours de la cathédrale. Une heure après environ le déclenchement de cet incendie, la flèche qui se trouve sur le toit de la cathédrale s'est effondrée. C'est cette flèche qui était en cours de restauration, un chantier qui venait de débuter avec effectivement ces échafaudages village qu'on voit sur les images qui entourent cette flèche, une flèche installée au 19e siècle
oui,
par l'architecte
Viollet-le-Duc.
Absolument. En ce moment, les flammes ravagent encore cette cathédrale Notre-Dame avec des pompiers mobilisés en nombre, de très nombreuses lances à incendie et des milliers de personnes aux abords de la cathédrale pour tenter de voir ce qui se passe, d'assister à ce triste spectacle. En tout cas, un périmètre de sécurité a été mis en place aux abords de la cathédrale qui recouvre quasiment l'intégralité de l'île de la Cité. Et la mairie de Paris a mis en place une salle, la halle des Blancs-Manteaux dans le 4e arrondissement pour accueillir les habitants.
Merci beaucoup. Merci Rémi Brancato. Merci à tous de nous avoir aidés à essayer de comprendre ce qui se passait en ce moment. Donc, devant nous, à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui continue au moment où on se parle à brûler. On y reviendra évidemment sur France Inter très longuement au cours des informations toute la soirée, toute la nuit. Et puis demain matin, évidemment, matinale spéciale avec Nicolas Demorand et Alexandra Ben Saïd. Il est 21h sur France Inter.